Et je vous demande juste de travailler et de vous mettre face à face avec Dieu sur ces versets issus du verset 17, qu'il soit un. Juste qu'il soit un. Et comme c'est marqué, pas de Bible, pas de téléphone, pas de concordance, pas de discussion, un face à face. 5-6 minutes. Que Dieu puisse venir toucher vos cœurs dans cette dimension-là. Parce que je crois que Dieu a des choses à nous dire, des choses à nous communiquer. Et ce qui est plus important que ce que moi je peux dire, c'est ce que lui vous dit directement. Qu'est-ce que lui vous communique? Parce que ça reste. Mes mots à moi peuvent être oubliés, passés, et ça va bien. C'est vraiment pas grave. Par contre, que sa parole révélée s'incarne dans vos vies, ça change tout. Voilà, tout doucement, on va s'arrêter. De toute façon, c'est un exercice que vous pouvez facilement recommencer chez vous. Alors c'est vrai qu'il y a sur ces petites feuilles plein d'informations, comme par exemple les petites tâches à côté, parce que parfois notre esprit vagabonde, et on est en train de parler avec Dieu, et puis tout d'un coup c'est « Est-ce que tu as pensé à acheter le pain ?» Je l'écris à côté, et c'est enfermé là-dedans. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec le dentiste. Non, je l'écris là, puis je mets ça de côté. Et ça permet d'enfermer ces choses-là là-dedans. C'est assez efficace, c'est surprenant. Et puis après, c'est des versets, des choses à revenir. Vous cherchez plus loin. Vous cherchez dans la Bible. Bien sûr. Écrivez-le en dessous. Voilà. Il faut que je pense à faire ça, ça, ça. Mais ne vous privez pas du face-à-face. C'est le moment crucial où les choses peuvent être basculées. Voilà. Je vais demander à deux, trois s'ils veulent exprimer ce qu'ils ont vécu. Pas forcément ce qu'ils ont compris. Mais si vous avez vécu quelque chose, c'est quelque chose qui... Waouh. Et si Dieu me parle à moi, et Dieu vous parle à vous. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne nous ait pas parlé. Alors après, c'est un exercice court, parce que c'est dans le temps du culte, normalement on pourrait prendre plus de temps. Mais... voilà. Je ne veux pas vous faire partir à 2h de l'après-midi, ce serait un peu dommage pour le repas. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Si personne n'a partagé, moi je continue mon message. Hein. Merci. Alors, il faut que ce soit court. Il faut que ce soit vraiment dynamique. Si vous avez 30 secondes, ça, c'est très bien.
Oui, c'est court. Mais en fait, dans le face-à-face, le cœur à cœur avec le Seigneur, dès qu'on est vraiment relié en esprit, on sent que ça coule immédiatement et qu'il nous parle constamment.
Merci. Quelqu'un d'autre? Oui.
J'ai reçu vraiment une intensité du désir de Jésus. C'est le moment, c'est le kairos, c'est pour chacun de nous, il y a un désir tellement intense et ça bouleverse quoi.
Amen. D'autres?
Moi, j'ai senti le désir du Père qui voulait qu'on soit un. Parce que c'est Jésus qui dit qu'il soit un, mais là, c'est vraiment, il parle du Père qui veut ça et qui, et lui, il est capable de le faire, en fait, cette unité. C'est à travers Jésus. Et j'ai vraiment senti la puissance de l'amour de Dieu qui voulait ça.
Amen.
Alors, pour moi, c'est donc Dieu, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ils resteront pour l'éternité. Et Dieu, il a créé l'homme à son image. Donc on était, on reste et on restera, car nous sommes faits à son image. Après, il y a deux camps, à nous de choisir le bon. Car Dieu est patient, fidèle, mais il est juste. Donc ce qu'il attend, nous, de notre part, c'est qu'en fait, on fasse notre part. Et pour que lui, en fasse, il puisse faire des miracles.
Merci.
Je partage plus au niveau du contenu. Ça me touche que Dieu est un Dieu qui communique, qu'il soit un, il le dit, tu dis et ça s'accomplit. Et je pensais à l'exemple des étoiles qui apparaissent dans le ciel, et, enfin qu'il a dit que les étoiles apparaissent dans le ciel, c'était dans la Genèse, et les étoiles apparaissent. Ta parole est créatrice. Qu'il soit un comme le Père et moi sommes un, dit Jésus. Nous sommes rendus un comme le Père et le Fils sont un. C'est une réalité, une réalisation. Enfin, je fais ce parallèle.
Amen. Merci, parce que c'est vrai que
ce qui me parle ce matin, c'est qu'il soit un, c'est-à-dire qu'il ne soit pas double, comme nous sommes un, et le Seigneur est le même que je rencontre à la maison, que je rencontre ici, et que moi aussi je dois être, que je sois un, quand je suis à la maison, ou quand je suis avec les gens, ou quand je suis au culte. Enfin...
Merci. Encore un dernier ?
Moi, c'était apprendre à être une famille pour être une armée. C'est la pensée qui m'est venue. Et je voyais un gros pied qui écrasait la tête de l'ennemi. C'est ce que je recevais aussi comme pensée. Et la puissance dans l'unité de l'amour. Et je voyais aussi cette pensée de Zacharie 2 qui dit que le Seigneur est une muraille de feu autour de nous. Et je voyais que nous étions comme des torches. Et que c'est quand nous étions dans cette unité que nous étions les uns pour les autres des murailles de feu.
Alors, moi j'ai vu que, par rapport au contenu, que un, c'est une histoire de cœur. Ce n'est pas une question de raisonnement, on n'est pas d'accord sur un objet où notre pensée ça arrive à s'accorder. C'est une histoire de cœur. On doit s'accorder, on doit s'aimer, s'accorder, se faire confiance de cœur.
Voilà, je suis sûr que si tout le monde prenait la parole, il y aurait tellement de choses. C'est-à-dire que Dieu est capable de, en un instant, de donner à chacun une chose dont il a besoin lui, et en même temps dont on a besoin nous. Ça, c'est juste ce Dieu incroyable, qui même dans un message peut vous apporter à vous ce que vous avez juste besoin. Et ça peut être complètement différent de ce que l'autre. Et vous avez tous raison. Et ça, c'est cool. Et c'est dans cette présence aussi qu'on sent cet amour, cette puissance, ces choses-là couler. Amen. Alléluia. Donc je reprends tout le verset. C'est issu de Jean 17. Plusieurs ont déjà nommé pas mal de choses. Et ça me plaît bien. Donc c'est Jésus qui est dans ce dernier temps, dans cette dernière scène avec ses amis, avec les apôtres, et qui fait cette prière incroyable. Et puis, à un moment donné, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire que c'est intéressant, il parle pour ceux qui sont là, mais vous faites partie de cette prière-là. Jésus a fait cette prière pour chacun de vous. Ce n'est pas juste quelque chose d'écrit, mais j'ai prié pour ceux qui croiront au futur en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai ta gloire que tu m'as donnée, donc il y a un cadeau juste incroyable, pour un objectif bien précis, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste le monde ne l'a point connu, et moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître mon futur, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est un sacré passage. Il y a plein de choses à dire, mais moi ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils soient un. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose que je n'avais pas forcément complètement peut-être compris moi. C'est quand il dit qu'il soit un, il avait besoin que chacun de nous soit un. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour nous former. Il y a bien sûr cette unité collective, comme la mer, c'est l'océan, c'est un océan, mais composé de milliards de gouttes d'eau. Mais pour être dans l'océan, il faut être une goutte d'eau. Si tu as de l'eau en forme de vapeur, tu es au-dessus de l'océan, mais tu n'es pas dans l'océan. Il faut que tu sois une goutte. Il faut que tu sois un. Et du coup, j'ai commencé à voir que le Père, bien sûr, il avait donné cette gloire pour qu'on soit chacun de nous un, mais qu'il avait désir, la volonté de faire que moi, je sois un. Et il veut que chacun de vous soit un. Pas juste un amas informe, mais que tu sois un. Complètement unifié. Je pourrais prendre, on va prendre pas mal de versets, mais juste par exemple, quand tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est tu es un. Tu ne veux pas être plusieurs. Là, on a parlé de dualité tout à l'heure, ou de duplicité. Et chacun d'eux, pour que la Trinité fonctionne, il fallait que chacun d'eux soit parfaitement un. C'est comme si dans ce passage, il y avait la première couche, et puis il y avait une deuxième, puis il y avait une troisième couche. Moi, c'est là que je voudrais demander que chacun de vous, ce matin, reparte d'ici en se disant « Dieu est en train de faire moi un, de me donner une unité, de me donner une forme complète, et que je partirai avec ça. » Et donc on va travailler un peu dans cette dimension, chacun de nous. Excusez-moi si parfois ça coince. C'est un sacré défi. Et finalement, si c'est ça le cœur du Père, qu'il soit un comme moi, comme eux ils sont un, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela signifie, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est impossible, et puis, est-ce que ça ne dépend pas de moi en premier? Que je sois un, pour que je sois entièrement formé, est-ce que moi je ne suis pas là-dedans? Est-ce que c'est atteignable? Parce que quand je parle, je suis sûr que chacun voit peu les failles, à droite ou à gauche, dans sa propre vie, les failles passées, les interrogations, les doutes. Mais en même temps, pourquoi c'est aussi important? Parce que, imaginez que vous avez un grand puzzle à finir, et que chacune des pièces du puzzle est plus ou moins bien formée. Ceux qui ont fait des puzzles savent combien c'est compliqué. Et ceux qui se trouvent avec des pièces plus ou moins bien formées savent que c'est littéralement impossible. Et du coup, l'image que Dieu veut donner, rappelez-vous que le monde voit. Et ben, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va manquer. C'est pour ça que c'est tellement primordial qu'on puisse progresser chacun de nous, notre identité, dans notre unicité. En tout cas, moi, ça me semble terriblement compliqué. Qu'est-ce qui montre que Dieu est engagé dans ce processus? Est-ce qu'il y a des éléments qui prouveraient? Tout à l'heure, on a parlé d'une muraille. C'est pareil, nous sommes parfois l'Église comparée à une muraille, mais imaginez une muraille faite avec des pierres incomplètes et pas ajustées les unes aux autres. Même si on est 50 pierres, le moindre choc, tout est par terre. Parce que on n'est pas là. Hein, chacun de nous. Et peu importe notre forme. Tout le monde parle bien sûr des murs, de ce que plein de gens construisent, les Romains ou d'autres, mais regardez dans Machu Picchu comment est-ce que les Incas ont construit des formes un peu bizarroïdes, mais ils ont réussi à encastrer ces pierres et ça tient depuis des millénaires. Ça ne bouge pas. Parce que chacune est entièrement formée. Donc on va un peu parcourir tout ça. Et j'essaie de ne pas être trop long. Un des versets qui m'a bien inspiré dans ce cheminement, c'est Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage. et en tant créant Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquions. Donc c'est clair qu'il y a une stratégie de la part de Dieu, des œuvres, et qu'on doit les pratiquer. C'est pas nous, c'est lui qui a mis ça en place. Mais pour qu'on arrive là, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, il nous a créés en Jésus. Et je trouve ça juste incroyable, ce mot « créé en Jésus ». C'est comme si chacun de vous peut vous se voir être recréé en Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer un Dieu qui s'arrête, dit « bon maintenant, je crée celui-là en Jésus, celui-là en Jésus, celui-là en Jésus ». C'est juste un processus de recréation infini. Et ça commence par « nous sommes son ouvrage ». Question, est-ce que vous lisez la même chose que moi? Est-ce que nous sommes son ouvrage? Est-ce que tu perçois que tu es l'ouvrage de l'Éternel? Le monde, il l'a déjà créé. Et on se connaît la finalité, comment ça va se passer plus ou moins avec les interprétations. Mais ça va être à lui. Est-ce que tu perçois qu'au jour d'aujourd'hui, son travail, son ouvrage, c'est toi? Tu es au cœur de ses pensées. Et est-ce que c'est pas notre ouvrage? C'est pas moi mon ouvrage. Je participe. Ça, on va y venir tout à l'heure. Mais c'est pas moi à me faire. C'est lui. C'est son job. C'est son taf. Son travail. Son appel. Son désir. Et il veut faire ça de manière personnelle et bien sûr collective. Et ça veut dire qu'une chose qui est juste magnifique, c'est qu'on n'est pas seul face à soi-même. Parce que souvent, c'est là où c'est compliqué. Quand ça va bien, on se sent fort, on est prêt à conquérir le monde. Puis quand elle creuse la vague, et on a besoin de Dieu pour ça. Parce que finalement, on aurait des pensées sur nous assez défaitistes. J'aimerais juste, avant d'aller plus loin, prendre un exemple. Donc il y a 95-96, on avait ouvert Nicolas Saint-Louis, l'école Emmanuel, et on avait, c'était la deuxième année, je pense, 95, on avait déménagé des locaux. C'était quand même des moments assez incroyables, ces moments où les écoles s'ouvraient assez rapidement. Mais bon, malgré tout, quand tu passes une année à être au défi quotidien, avec les finances, avec les relations humaines, les relations avec toi-même, et les relations avec les autres, les enseignants, les parents, le comité, les voisins, le truc. Bien sûr, comme enseignant à plein temps et directeur, les semaines sont un peu à rallonge. Forcément, on n'a pas toujours l'impression d'être très très proche de Dieu dans ces moments-là. Et parce que parfois, c'est compliqué de prendre du temps avec Dieu. Quand tu cours à droite et à gauche, et que tu bouges tous les trous, avec tous tes doigts, puis que t'as plus de doigts, tu mets ton nez, puis tu respires un grand coup, puis tu recommences. Et je me rappelle avoir fini l'année un peu sur les rotules. Et puis, cette année-là, une équipe du collège Annette est venue pour prier à la réunion de prière qu'on avait. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'a donné cette parole qui me dit « Mais tu es fidèle ». Je peux vous dire que moi, je ne me voyais pas fidèle. Pas pour deux sous. Je voyais tous mes manquements. Ça, oui. La liste était très longue. Mais pas la fidélité. Mais bon, tu te dis « Ouais, ok. C'est sympa. Je vais le prendre parce que j'en ai besoin. » Mais... il y a quand même quelque chose au fond de toi qui tient pas, tu vois. Ça, c'est comme si quand l'air est très sec, très sèche, que la pluie arrive, ben ça part. Ça a du mal à tenir. Puis on était parti, on avait fait un camp Esdras dans le sud de la France, et on m'était avancé pour la prière pour quelque chose. Je sais pas, ça parlait de la famille, me semble-t-il. Et en fait, ça rien du tout. La personne m'aurait dit tu es fidèle. Mais où? Ça fait deux fois. Et une troisième fois, quelque temps plus tard. Il dit, ok, j'ai compris, pas mes pensées, les tiennes. Je vais accepter d'être qui tu es. Et c'est pas grave de faillir. C'est normal. Ça fait partie de notre vie. Le juste va tomber, mais il va se relever. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous faire tomber, de qu'on reste à plat ventre. Donc on a besoin de voir ça. Et nous sommes son ouvrage. Ça vous rappelle quelque chose? Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. On a différents niveaux. Et là, c'est intéressant, on voit le calibrage à la masse, c'est la chose la plus connue. Mais on peut aussi être mis dans un moule, être rempli. Et Dieu veut s'occuper de nous à travers d'un moule, éventuellement, quand le vase est plus petit ou plus grand. Celui-là est pas mal non plus, avec de la corde. On met de la corde autour d'un truc, on met de la terre par-dessus, on lisse, et puis après on déroule la corde à l'intérieur. Donc quelle étape tu es dans ta vie? Quel est le moule que Dieu est en train de faire avec toi? Quel est son travail? Et je crois que Dieu est à l'œuvre. Plusieurs versets qui vont dans le même sens. Si jamais, parce que parfois on est comme moi. Si vous êtes comme moi, je suis un peu lent à la détente. J'ai besoin d'aller de l'avant, il me faut du temps. Ésaïe 64. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Ça fait pas écho avec Éphésiens 2 tout à l'heure? C'est bizarre, hein? On a presque la même chose. Jérémie 18. On va pas tout lire parce qu'il y a trop de choses. Et voici, il travaillait sur un tour, donc le potier, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Hop! Zut alors, ça marche pas. Et alors? Il fait quoi? Est-ce que Dieu a décidé d'abandonner? Est-ce qu'il dit, ben non, ça va pas, c'est foutu, ouais, change de métier. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, donc ce qui était l'air, parfois nos échecs sont pas, c'est pas grave. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et peut-être que dans ce processus, vous êtes en train de vous former, travailler. Romains 9, donc ça, c'est on trouve des choses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et j'aime bien ce passage où, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, c'est-à-dire chacun de nous, et en même temps, pourra dire la collectivité, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Vous êtes de l'argile entre ses mains. Il est votre maître. Et c'est lui, et vous êtes son ouvrage. Il vous forme. Là où vous êtes. Là où vous êtes dans le processus, il est en train de travailler à vous former. Un autre, je trouvais presque plus violent, qui doit nous penser aussi à nous remettre en cause de temps en temps. Ésaïe 29. Quelle perversité est la vôtre? C'est-à-dire, quand vous êtes tordu, vous pensez mal. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? C'est lui, Dieu. Est-ce qu'on doit nous l'imaginer comme de l'argile? Pour que l'ouvrage, nous, dise à l'ouvrier, il ne m'a point fait. Que le vase du potier n'a point d'intelligence. Il est à l'œuvre. Il se positionne en tant que créateur, mais en même temps, il est responsable de ce qu'il fait. Et peut-être qu'on est dans un temps de préparation. Pour faire un bon vase, il faut que la terre soit bien préparée. Il y en a qui feraient tout un discours et je peux prendre le temps, il faut que la terre soit posée, qu'elle repose, qu'elle soit affinée. Donc ça peut rester des mois et des années sur une truc, mais voilà, elle doit être malaxée, il faut enlever les bulles d'air. J'ai vu qu'on créait même des vases, pour les gros vases, avec dedans de la terre cuite, déjà cuite, dedans brisée. Et après, une fois qu'on a fait cette masse, on peut aller plus loin. Et peut-être qu'on est dans la phase de malaxage et que c'est pas facile. Mais je dirais qu'intéressant, c'est que Dieu n'aime pas qu'on prenne sa place, ou sa fonction, ou bien qu'une certaine manière on le maîtrise. Donc je ferai attention à me mettre à la place de Dieu, même inconsciemment. C'est parfois pas volontaire, Mais quand parfois on imagine que nous sommes responsables de tout de nous, c'est qu'on commence à se mettre tout doucement à un niveau qui est peut-être un peu trop haut. Nous sommes responsables de beaucoup de choses, mais nous sommes son ouvrage. Ça, c'est la priorité. Il faut que je me dépêche parce que je suis... Voilà, voilà. Alors, très rapidement, Benjamin avait parlé d'étoiles la dernière fois et je trouve que c'est juste magnifique. Parce qu'il a parlé de ces galaxies qu'on peut être ensemble. Et c'est beau, chacune de ces galaxies est juste magnifique, composée de milliards d'étoiles. Ce sont des vraies images. Alors, juste une chose, la plupart des images comme ça sont travaillées par un artiste. Par un artiste qui prend les images et qui les rend belles. Parce que sinon, on ne voit rien du tout. C'est comme une radio, quand tu vois, c'est moche. Et il y a des artistes qui vont rendre ça magnifique. Donc, merci pour les artistes à la NASA et ailleurs. Je vous rappelle juste que j'avais fait un message là-dessus en 2024, Église de Lumière, ça vient compléter cette histoire-là. Et ça fait un tout. Prenez les deux messages en même temps. Moi, ce qui m'avait bien parlé, qui allait dans le même sens de ce que je suis en train de parler d'aujourd'hui, c'est celle-là. Là. C'était quoi de nouveau, rappeler? Non. C'était les étoiles, les naines brunes. Ce sont des corps célestes qui étaient finalement... On ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas vraiment une planète, parce que ça a un peu plus grand niveau de la masse, son fonctionnement, il y a de l'énergie dedans, mais c'est pas vraiment une étoile. Donc on leur a donné le nom de naine brune. On peut les voir à l'infrarouge, donc il y a des moyens de les trouver. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose de pas fini. Est-ce que je veux être une naine brune ou une étoile qui brille? Est-ce que je veux laisser Dieu rallumer le feu en moi, que je dépasse la masse critique? Et si lui vient en moi, alors, waouh! On a parlé tout à l'heure du Père, et ça a été dit à plusieurs reprises. Et je crois qu'une des manières d'être qui nous sommes, c'est de devenir des fils. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous serez pour moi. C'est lui qui a fait ce chemin-là vers nous. Et je crois qu'un des deux versets qui sont en dessous, tu l'as nommé, me semble-t-il, Fabrice, la semaine dernière. Et quand je t'ai entendu, tu dis, ça marche, on est dans le bon chemin. Il me semble que c'est celui-là. Là. Donc, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Parce que je me perfectionne moi-même. Je participe au processus encore une fois, mais c'est son boulot. Vous affermira. C'est-à-dire que non seulement il vous perfectionne, mais il y a quelque chose où il vous affermit, il vous rend ferme. Vous rendra, vous fortifiera, vous donnera de la force si vous n'en avez plus. Et vous rendra inébranlable. Waouh, quel programme! C'est bon de savoir que Dieu s'occupe de tout ça. Quand moi je tremble, quand moi je ne sais pas, quelqu'un est à l'œuvre et il bosse. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Déjà ça commence. C'est qui sanctifie? C'est lui, tout entier. Et j'aime bien ce tout entier. C'est encore une fois, on parle d'unité. Je pourrais parler du corps, de l'âme et de l'esprit de nouveau. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il vous a appelé et résultat des courses, c'est lui qui le fera. Alors, je vais aller très vite sur celui-là parce que la création attend la révélation des fils, pas des enfants. Un autre passage, j'ai dit, mais je crois que c'est dans Galates, mais l'enfant n'hérite de rien tant qu'il est enfant. On peut avoir le autre nom sur la plus grande liste d'héritage, mais si tu as 2-3 ans, tu as hérité, mais en gros, tu n'as rien. Quelqu'un va gérer pour toi. Et dans ce même passage, dans Romains 8, il est parlé du fait que, même si on ne sait pas, encore une fois, c'est qui vient nous attendre notre aide? C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous aider. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Donc l'Esprit et Dieu se mettent ensemble pour prier pour vous. dans tous vos doutes, dans vos failles, dans vos questionnements. Il est là. Et on va continuer ce même Romains 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un truc très connu. Et dans ce contexte-là, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, il a un dessein, il a une stratégie. On en revient tout au début. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tout à l'heure, on a parlé d'une création à son image. On retrouve ça. C'est intéressant. Moi, j'aime bien quand ça vient de vous et que je retrouve les choses là derrière. Ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire chacun de vous, il les a appelés. Donc il a une prédestination et il a un appel. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, rendus justes. Et ça, c'est déjà... Dans tous ces trucs-là, on peut passer une semaine. Hein. J'ai de la justification pour ceux qui ont travaillé dessus, une semaine, 15 jours, c'est juste ça, c'est pas mal. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit accepter, d'être juste. Ouais, on va passer sur celui-là rapidement. On retrouve l'idée de prédestination, d'être saint, irrépréhensible, gardé, et qu'on devienne des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Éphésiens 1, à la louange de sa gloire. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour qu'on puisse et continue à faire. Et à la fin, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu a un conseil, il écoute son conseil, il dit « Bon, maintenant j'y vais et on avance. » Et c'est juste magnifique. Ouais, on se rapproche de la fin, c'est bien. Par contre, c'est pas toujours simple. La semaine dernière, ce chant qui disait « Mais tu me connais, tu agites la mer, mais tu me connais. » Est-ce que c'est quelque chose qui s'incarne dans ma vie, ça? Parfois oui, parfois non. Mais Dieu souverain, c'est lui qui gère. Et parfois on se pose des questions de comment certaines choses vont être faites, ou comment nous on va y arriver. Ah, je suis pas qualifié, et alors David, derrière les moutons, il était roi quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a eu pas un processus de transformation et de réalisation. Élisée, tout d'un coup, il y a le prophète qui passe devant, hop, et il ne va pas marcher avec lui. Et en marchant avec lui, il va être transformé. Mais c'était la volonté de Dieu qu'il soit appelé à ça. Amos, un des bergers, c'est pareil. Les apôtres, pêcheurs, percepteurs, tout ce qu'on veut, toute une équipe plus ou moins... formidable. Et juste, j'ai imaginé la tête des... Parce que finalement, on voit toujours la finalité, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais ces disciples qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans, qui à la fin leur demandent qui est le plus grand, que Jésus dit « Non, taisez-vous, c'est parce que vous demandez que c'est tout. » Et « Ouais, mais je suivrai. » Et puis, tu te sens fort quand même. T'as marché avec Jésus, t'as vu des miracles, t'as vu des choses incroyables. Il te fait des promesses, tu viens de vivre la Sainte Cène, la communion, il te fait une prière de Jean 17, juste... Et puis Jésus meurt sur la croix, et plus rien. Quelle image tu as de toi-même? Quelle image? Est-ce qu'on n'a pas parfois comme ça, on voit des choses magnifiques, et puis... Pouf! Et ils ont dû être relevés par Jésus. Mais même ça, même ce moment-là faisait partie du processus de formation, de modelage. Même ça. Donc ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Même si on doit travailler à notre formation. Donc j'aurais pu mettre là-dessus, très rapidement, Israël, sorti d'Égypte, 40 ans dans le désert, pour faire d'un troupeau. Je crois écouter le message en 2020 que j'ai fait là-dessus, sur dire un confinement, pourquoi faire. 40 ans pour transformer un amas de personnes en une nation où chacun était à sa place, chaque tribu était à sa place. Quand à la fin, ils rentrent dans la terre promise, ils ont chacun leur place, ils ont un positionnement, il y a tout qui a été construit autour du tabernacle. Regardez les images du... il faut que je me dépêche. les images d'Israël à l'époque, il les a transformées, modelées pendant 40 ans. Et imaginez leur tête quand ils arrivent après, c'est après Jéricho, où il y a une bataille où ils perdent. Ils se disent, mais ouï ! Ok, de loin on peut dire, bon c'est sympa, ils ont assez... Mais au moment où tu repères la bataille d'après, tu dis, mais ça a servi à quoi tout ça ? Pour retrouver dans les travers d'avant ? Pourtant, Dieu est à l'œuvre toujours, et il ne les a pas laissés tomber, et il a continué à travailler avec eux. Moïse, on n'en parle pas, 80 ans, je suis foutu, le pas, non je ne veux pas y aller, si tu y vas, non je ne veux pas, si j'y vais... Dieu l'a formé. Et même quand il était devant Pharaon, 80 ans, quoi que c'est 80 ans, je suis pas sûr. Hein? Merci. Il y en a qui sont des érudits, c'est bien. Ça évite que je dise trop de bêtises. Et à chaque fois, il a dû apprendre quelque chose. Oh non, non, allez, moi je veux pas. Bah, avance. Et à chaque pas, il l'a appris. Jusqu'à devenir cet homme qui a pu faire sortir Israël d'Égypte, mais ça s'est pas fait comme ça. Et l'étape de transformation n'a pas été évidente. Mais Dieu était à l'œuvre. Il a été son ouvrage. Abraham parle très vite parce que c'était un émigrant qui, avec ses hauts et ses bas, ok Dieu, je viens t'aider, non je peux pas, oups, aps, j'y arrive pas. Je caricature un peu certains côtés. Parce qu'on dit, ouais, il manque de... C'est juste pour montrer que Dieu est à l'œuvre. Et que peu importe tes failles, Dieu est à l'œuvre. Joseph, je me rappelle juste ce message, pourquoi Marie était à Bethléem ? Parce que Joseph, il a amené toute sa lignée avec lui. Il était un. On ne sait pas grand-chose de cet homme. On sait quand même qu'il était pieux, qu'il avait des rêves, des visions. Mais il a juste permis que la prophétie s'accomplisse. Il était dans la descendance, dans la lignée. Il était juste ça. Et ça, c'était la priorité pour Dieu. Toi, et ça doit être sûrement un homme très bon, bah. Le sacrificateur, aucun d'eux ne sont appelés. Et même dans Jésus, je trouve ça juste incroyable. Tout à l'heure, on a appelé ceux qu'il a appelés prédestinés. Vous savez tous ces mots qu'on a dit ? Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit : tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Même cette partie-là, Dieu a travaillé avec Jésus et l'a formé pour arriver là. Donc, nous avançons avec toi dans tout ça. Puis j'aimerais arriver, on est presque à la fin, rassurez-vous. Souvent on dit... un esprit d'orphelin, mais on parle beaucoup des fils et des filles, n'est-ce pas ? Et je vous inviterai à vraiment réfléchir à ceux qui n'ont pas fait au parcours d'adoption, qui est là-bas. Une des manières de je vais le dire maintenant, peut-être je peux, d'avancer, c'est de permettre à Dieu de faire ce travail en vous. Et pour ça, il faut des temps de pause. Par exemple, je sais que cet été, tu as fait un camp déjà, David, avec Dieu, c'était ça ? Tu as fait quelque chose ? Plein de gens font plein de choses. Je m'appelle, nous, quand on est d'abord en conversion, à l'époque, on avait 3 réunions par semaine à l'église, la prière, l'évangélisation, le culte. Donc déjà, ça fait pas mal de temps où ça brasse. Même si vous n'êtes pas parfait, Dieu travaille même avec des choses imparfaites. D'ailleurs, je suis là en train de prêcher, donc c'est qu'il travaille avec des choses imparfaites. Rassurez-vous. Mais après... On est rentré en séminaire, on a fait les séminaires maturitaires tous les ans. Il y avait l'école des prophètes, on faisait des semaines complètes, on faisait des week-ends. On partait le soir, et on rentrait, il était minuit. Parfois on allait à Bienne chez des amis en Suisse. On faisait une heure et quart pour aller vivre le culte le samedi soir. On rentrait 2-3 heures du matin. On a laissé des trucs sur... combien de fois on est rentré à point d'heure, les nuits de prière au niveau du collège. Mais à chaque fois, Dieu a travaillé. Et on a pris des vacances entières. Pour travailler avec Dieu. Laisser et donner du temps à Dieu de faire la transformation. Ça, c'est notre plus grande part à dire. Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure, j'ai besoin de toi. Et si on fait ça, lui, il va faire tout le reste du boulot. Et puis il y a une autre partie, comment je peux revenir, c'est parfois, vous savez, il est écrit quand on offre de la soin des orphelins, ça on comprend avec l'esprit d'orphelin et des veuves. Et parfois je pense qu'en Jésus, on ne sait pas qui est le bien-aimé. Quand je chantais tout à l'heure chez Yeshua, mon bien-aimé, est-ce que je sais qui est mon bien-aimé? Ou est-ce que je crois que je suis quelqu'un de célibataire, de veuf, loin, comme un, c'est plus donc pas déjà dit, mais peuvre, battu. Battu par la tempête, par le, je sais plus quel passage, mais en tout cas, dit, mais voilà, tu es seul, tu es désolé, il n'y a personne pour toi. Pourtant, on parle de l'église, d'Israël, pardon. Église 54. Et donc, on a un chemin à faire aussi. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi. Jésus nous parle. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Il connaît le timing, il vient vers nous. Ce qui est terrible dans ce passage-là, je vous ai mis dans le... C'est qu'à la fin du passage, elle dit « reviens ». Elle ne se lève pas, elle dit « reviens chez moi !»« Lève-toi !» Et juste au chapitre suivant, c'est le cantique 2, et ça commence. Apparemment, elle ne s'est pas levée. « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché ce que mon cœur aime. » Si Dieu te dit « lève-toi », lève-toi. Et après, je me leverai. Juste, ne loupe pas le moment où Dieu dit « te le... » Parce qu'après, elle va tout quand même trouver le bien-aimé, mais ça va prendre du temps. Et on a besoin de rentrer dans ces dimensions où Dieu nous parle en tant que bien-aimé. Et je finirai peut-être par celui-là. Parce que qu'on soit fils ou qu'on soit l'épouse, c'est ça qu'on a besoin, c'est d'avoir un sceau sur notre cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme quelque chose qui est ineffaçable, inébranlable, qui est comme fixé pour l'éternité, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme les séjours des morts. Ses ardeurs sont des flammes de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, et les fleuves ne la submergeraient pas. L'amour de Dieu, 1 Corinthiens, trois choses demeurent, l'amour, l'espérance et la foi. Il demeure à côté de nous, quoi qu'il arrive. Et c'est la bonne nouvelle que je voudrais vous dire. Là-bas, en bas, il y avait un lien pour, ça fera trop de toute façon, pour ce chant qui dit, il existe en anglais mais aussi en français, he won't relent, il ne s'arrêtera pas, il n'abandonnera pas. Il y a quelque chose où Dieu dit, mais quoi qu'il arrive, je veux conquérir ton cœur. Et c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui pour nous. Et ça, on va plus faire, et ça, on va plus faire, et ça, on va plus faire. Voilà, mais sûrement des choses très importantes encore, mais ça va aller. J'aimerais juste, si ça va pour vous, qu'on puisse prendre la Sainte Cène, et puis après, avoir le temps de prière. Parce que je crois qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a peut-être un temps où, quand les gens peuvent éventuellement partir, mais qu'on peut encore libérer des paroles. Juste, je parlais un tout petit peu trop vite. Bien sûr, quand Vito fait des bêtises, il les fait bien. Ouais, je vais le dire de mémoire. Si j'y arrive. Oui. Juste avant la Sainte Cène, alors que vous allez, qu'on puisse aller à la Sainte Cène avec tout ça sur votre cœur, avec ce que Dieu vous a dit, avec le message, avec toutes les informations que vous pouvez avoir. Laissez Dieu venir travailler votre cœur dans ce moment de Sainte Cène. C'est aussi un des moments pour être un avec lui. Et je rappelle qu'on ne s'est pas approché d'un truc plus ou moins bruyant, mais on s'est approché de Dieu lui-même. Et on est approché de l'assemblée des fils premiers-nés. Il y a quelque chose dont on s'approche d'une assemblée juste incroyable de Dieu qui juge les esprits des hommes et l'esprit des justes. Vous êtes approché de Dieu, le médiateur d'une nouvelle alliance. Et dans Jean 6, il est dit qu'un mot de... Jésus dit lui-même, En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Seigneur, alors qu'on va partager ce pain et ce vin, du coup, j'ai oublié de demander à deux personnes, mais c'est là deux qui veulent aller distribuer. C'est super, merci beaucoup. Seigneur, j'espère avoir donné ce que toi tu voulais. Et que dans ces cœurs, quelque chose est passé, quelque chose vient bouleverser leur vie. Qu'alors que tu es en train d'œuvrer dans l'église, pour qu'on soit ensemble, hein, que tu es en train de former chacun d'eux, pour qu'ils deviennent cette merveille que toi tu veux, cette perle d'un grand prix, ce chemin, cette vérité, que chacun d'eux puisse recevoir de toi aujourd'hui dont il a besoin, et repartir fortifié, encouragé, béni. On veut invoquer ton nom sur nos vies, papa, et on veut te bénir pour le pain et le vin. Alléluia. Et on dit que, alors que nous prenons ces aliments, il y a une connexion avec toi qui se fait. Tu dis que si on mange ça, et si on boit ça, alors quelque chose se passe. Pas juste un moment, mais quelque chose passe en nous, est établi, est affermi. Alors maintenant, je veux appeler ces affermissements dans nos vies. Je continue à prier pendant ce temps-là. Donc si vous avez à cœur de prendre la Sainte Cène tout de suite ou un peu plus tard, prenez-la quand le bon moment vous sent pour vous. On est quand même ce matin dans un temps individuel, mais... Et Seigneur, je veux parler contre toutes ces formes de mensonges et de culpabilité. Quand on a vécu tous ces échecs, personnels ou collectifs, on dit, mais on n'y arrivera jamais, c'est pas bon, c'est foutu, je suis nul. Je suis pas la personne que tu voudrais que je sois. Je veux parler à tous ces esprits de mensonges qui viennent bouleverser nos vies et à la culpabilité qui vient s'associer aux mensonges pour dire en plus tu es coupable. Au nom de Jésus, je veux dire aux ces esprits de mensonges de s'éloigner des bien-aimés du Père, de ses fils et filles bien-aimés, de ses épouses et fiancées bien-aimées. Je parle au nom de Jésus afin que la culpabilité recule et que l'identité forte en toi soit ancrée. Que chacun d'eux soit révélé pour qui ils sont, comme toi tu le désires. Que chacun d'eux devienne ces pierres vivantes, ces perles d'un grand prix dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour que chacun d'eux puisse les voir là où tu es en train de les établir. Tu as dit que toi-même tu les établis, que tu les as appelés, prédestinés, et que tu es en train de les former, de les affermir. Alors je prie que chacun d'eux voie cet affermissement. Même dans les temps de trouble, tu les affermis, tu les rends forts. Parce que tu dis que tu fais de nos ennemis des marchepieds, et qu'alors qu'on soit en train de prendre ce pain et ce vin ensemble, il y a cette table dressée, que toi-même tu as dressée, c'est pas nous, c'est toi qui l'as dressée. Et nous, on est à la table du roi en train de manger avec toi, en train de goûter au mets délicieux avec toi. Et nos ennemis sont confondus, ils sont confus. Et on parle la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et on parle la joie et les réjouissances dans ton camp, les réjouissances de la fiancée, du fils qui retrouve la maison du père. Alléluia.